Il faut être acteur de son parcours professionnel. Faut soi-même développer les compétences qu'on a envie de développer. Et ça, c'est de l'apprentissage continu, c'est pas que tes études.
Bienvenue dans le podcast Altitude. Un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance. Qui vous fait prendre de la hauteur. Qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Ce qui compte, c'est aussi d'écouter son intuition. Moi, j'ai beaucoup écouté mon intuition quand j'étais étudiant. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver ma voie pour m'épanouir. Ça peut encore changer, hein, bien sûr, hein, tout n'est pas rose. Ressentir au plus profond de soi-même ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire, ça, c'est important.
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille. Et pour ce 10e épisode, nous nous rendons sur un terrain particulier. Il s'agit de l'école YouSchool, qui propose un enseignement à la carte permettant de choisir parmi toutes les formations de licence et de master de l'Université catholique de Lille. Pour nous éclairer, nous recevons Victor Cachot, en master 2 de l'innovation et du design thinking, qui s'est spécialisé dans les ressources humaines et qui est aujourd'hui chargé de projet aux ressources humaines pour le groupe Auchan. Pour l'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Sidonie Flipeau, une ancienne étudiante de la faculté de lettres et sciences humaines, spécialisée dans la psychologie du travail et qui est aujourd'hui People Business Partner. Alors toi Sidonie, tu reviens à l'université et toi Victor, tu t'en vas. C'est quoi votre ressenti général par rapport à ça ?
Alors, tout simplement, je suis content de pouvoir entrer dans la vie active, d'arriver dans la vie professionnelle, même si on a déjà pu la découvrir depuis les stages qu'on a effectués et l'alternance, la période d'alternance. Mais c'est ça, c'est vraiment l'envie de découvrir le monde professionnel, de prendre vie, de la vie adulte, on va dire. Et je dirais même envie de s'épanouir très doucement, mais en même temps sûrement, sûr de soi, en étant serein et en avançant avec son réseau professionnel qu'on a pu développer, et avec ses amis, et surtout son projet professionnel qui a depuis mûri depuis maintenant à peu près 5-6 ans.
Et toi aussi, Denis, un petit peu de nostalgie de revenir un peu à l'université
catholique. Alors, j'entends content d'en partir. Moi, je dirais content d'y revenir, en effet. Ça fait plusieurs années, je pense, que je n'avais pas franchi les portes. Donc c'est chouette de se rappeler ces bons souvenirs. Tu parles projet professionnel. Je pense que, en effet, si on m'avait dit en partant quel sera mon parcours et ce qu'il est devenu aujourd'hui, je pense que je ne me serais pas forcément imaginé ça. Donc contente, ouais, satisfaite en tout cas.
Vous parlez de projets professionnels, c'était quoi vos projets d'avenir quand vous étiez au lycée ?
Alors moi, j'ai donc fait des études de psychologie et je me suis spécialisée en psychologie du travail avec l'objectif d'être psychologue et de vraiment avoir un rôle, je pense, de psychologue au sein d'une entreprise. J'ai toujours été hyper attirée par le monde de l'entreprise, donc mon projet, c'était de bosser en entreprise, mais avec vraiment ce côté humain et de psychologue.
Donc dès le lycée, tu avais déjà cette envie de travailler dans la psychologie du travail et
Alors, psychologie sûre dès le lycée, psychologie du travail, ça a peut-être maturé en moi au cours de mes études pour devenir ça, ouais, en effet.
Et moi, je crois que je le dois plutôt à mon père, en fait, qui était dans le domaine des ressources humaines depuis maintenant un bon bout de temps. J'ai appris à connaître la fonction RH de par son métier, consultant en ressources humaines. Et donc, je me suis mis tout de suite à découvrir un peu ce que c'était depuis mes années collège, en fait. Et donc, ça a mûri. J'ai vu qu'il y avait possibilité de faire une licence de gestion des entreprises dans laquelle il y avait justement la spécialité RH à suivre. Et de là, je me suis vite rendu compte que ça faisait partie de mes envies, de mes aspirations, de mes valeurs également, que je pouvais incarner mes valeurs du quotidien dans cette fonction. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon objectif. Et à ce jour, j'aimerais en fait entrer plutôt dans un service ressources humaines dans lequel je pourrais développer mes compétences, mais surtout celles de mes collaborateurs, salariés d'entreprise, et de leur permettre de s'épanouir au cours de leur carrière, tout au long de leur carrière.
Toi, tu viens de finir un cursus à YouSchool. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consiste ce cursus, ce qui te plaît là-dedans ?
Ouais.
Et toi, Sidonie, tu pourras nous dire ce que t'en penses, et est-ce que si ça avait existé quand tu étais à la fac, eh bien, tu te serais lancé là-dedans ?
Alors, pour faire court, hein, YouSchool, donc Management de l'innovation, un master qui se déroule en 3 ans à peu près, ça nous aide à penser autrement, à agir différemment, à développer notre créativité et à comprendre comment on peut conduire un projet innovant à travers des méthodes agiles, créatives, qui nous permettent de développer l'intelligence collective, en équipe bien sûr. Et donc tout ça, c'est pour le besoin de l'entreprise, hein, puisqu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise a besoin d'innover constamment. Et je dirais que pendant 3 ans, on apprend à vraiment développer cette pensée créative qui nous permettrait de le faire facilement, de stimuler notre créativité à chaque instant, individuelle et collective.
Voilà. Et comment on arrive à faire un master en 3 ans ?
Alors, tout simplement...
Deux masters, trois ans, c'est plutôt comme ça.
Double master, on postule au premier, du moins. Si on est pris, ça nous permet d'accéder au second, tout simplement. Mais je dirais qu'il faut surtout le sens qu'on y donne, c'est-à-dire savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous donne envie de le faire, puisque, après tout, c'est pas parce qu'il y en a deux qui se déroulent en même temps que ça va nous demander une montagne de travail. Au contraire, si on y met le sens et qu'on sait pourquoi on le fait, ça va passer... beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement.
D'accord, donc en fait, le premier, tu le fais en deux ans, et en fait, le deuxième, tu le travailles pendant les deux années, la première année, et puis tu fais la deuxième année au bout de la troisième.
Tout à fait, ouais. Si on peut résumer ça comme ça, c'est à peu près ça, ouais, tout à fait.
Et donc, Sidonie, si ça avait existé à l'époque où tu étais à l'université, est-ce que tu penses que tu te serais plongé là-dedans, ou est-ce que tu serais resté vers ce à quoi tu t'es destiné et ce à quoi tu te destines aujourd'hui?
Ouais, alors, super question. Je pense que c'est hyper riche. Je pense que c'est hyper riche de faire deux choses en parallèle. Parce que tu parles d'agilité, tu parles de construire en collectif, tu parles de pas mal de choses qui font vraiment écho, moi, dans ce que je vis au quotidien, dans une vraie vie professionnelle, en fait. Moi, ce que j'ai vu en psycho, c'est j'ai adoré. Donc, je reviendrai pas sur ça parce que j'ai vraiment apprécié. Puis moi, j'avais à cœur d'avoir le titre de psychologue. Et donc, c'était important pour moi et c'est toujours important pour moi. Donc je resterai sur ce titre-là. Par contre, en effet, je pense qu'il me manquait de choses très concrètes professionnellement, que j'ai l'impression que tu as pu vivre, toi, Victor, en tout cas sur des choses qui font vraiment écho dans ce qu'on vit dans le monde du travail aujourd'hui, notamment donc, encore une fois, quand tu parles de collectif, quand tu parles d'agilité, quand tu parles de créativité, de façon de penser, je pense que ça, c'est des choses où peut-être dans des diplômes très universités comme la psychologie, on a un peu moins, et donc en effet, prendre un peu de chaque master et de ce qui peut être très utile dans la vie professionnelle a vraiment du sens. Ouais.
Je partage ce que dit Sidonie, c'est tout à fait ça. Et en fait, le gros avantage de ce master-là, Management de l'innovation, je le rappelle, c'est qu'on est vraiment dans une taille humaine, en fait. On est vraiment 6 à 10 personnes à faire ce master de plusieurs facultés. Il y a des gens qui venaient de fac de droit, d'autres de FLSH, c'est arrivé, et de gestion, économie et sciences. Et donc, ça nous a permis d'être en symbiose, de croiser les intelligences et donc d'arriver à un collectif qui nous a permis d'avancer et de conduire des projets innovants, certes, mais pas seulement, on va dire aussi classiques. Ça nous a permis quand même de savoir ce qu'est vraiment une gestion de projet. Mais c'est ça qui était avantageux, c'est la taille humaine du groupe. Et donc à 10, c'est le bon chiffre. Peut-être qu'on peut monter jusqu'à 15, 20, mais à un moment, il faut se restreindre. Il faut quand même pas monter trop haut pour qu'on puisse rester dans cette force et cette puissance collective.
Et les deux masters que tu as faits, quels étaient leurs intitulés précis?
Alors, le premier intitulé précis, c'est gestion des entreprises, management.
Donc ça, c'était du coup tiré de certaines formations que proposait la FGES.
Tout à fait.
Et le deuxième, c'était le design thinking, c'est ça?
Management de l'innovation tiré design thinking. Ouais,
d'accord, qui t'ont permis d'apporter plusieurs compétences supplémentaires aux ressources humaines.
Compétences transversales, je dirais. Ouais. Donc, on a travaillé nos savoir-être, en plus des savoir-faire qu'on avait déjà acquis par le passé, donc à FGES, mais surtout les savoir-être. Donc, je vais en citer trois grands, oui. Empathie, agilité forcément. Et alors, on peut dire innovation, créativité, ça peut se croiser, mais ouais, plutôt créativité quand même. Voilà.
Est-ce que pendant votre cursus universitaire, vous avez eu l'occasion et la possibilité de partir dans un autre pays pour faire une formation particulière?
Ouais, alors moi je suis partie, j'ai fait toute ma licence 3 en Californie.
Bronzette du coup.
Ouais, pas vraiment. pas vraiment, c'était passionnant. C'était vraiment passionnant et c'est complètement une autre méthode aussi de voir les études qui est à l'américaine, donc vraiment différent de ce qu'on voit à la française.
Qu'est-ce qui diffère?
Il y a très peu de cours, on a très peu d'heures de cours par semaine. Par contre, il y a énormément de travail chez nous en préparation. On arrive en cours en ayant fait le cours chez nous, en ayant fait beaucoup de pré-lecture, en ayant mûri le sujet, réfléchi sur le sujet, s'être renseigné sur le sujet. Et en fait, l'heure de cours sert davantage à poser des questions, à aller plus loin en fait. Finalement, il y a cette démarche de brainstorm, d'aller plus loin, de faire le pas supplémentaire par rapport à un cours qui t'est donné ou que tu peux apprendre tout seul. Mais en fait, avec tes collègues de classe et avec ton prof, tu es vraiment plus dans l'exploration du sujet plutôt que juste dans un apprentissage.
Je rebondis rapidement sur ce que dit Sidonie. Je l'ai un peu vécu, FGES, c'est ce qu'ils nous enseignaient, nous demandaient de faire.
Donc ils avaient aussi une méthode un peu à l'anglo-saxonne.
Ouais, ouais, exactement. Depuis la licence, ça s'est fait en fait. Ils le proposent en licence économie-finance notamment, gestion également. Donc c'est ça, c'est vraiment le fait de bosser par soi-même pour ensuite arriver à faire une vraie conversation auprès du prof et d'entrer dans des scénarios, des vraies discussions managériales et non plus s'arrêter à ce qui est écrit théoriquement. Là, on passe un peu plus en pratique.
D'accord. Et toi, t'as pu partir à l'étranger ou t'as pas eu cette chance?
Non, c'est pas encore fait, mais je sais que j'ai l'intention de le faire. J'ai pas franchi le pas durant les études, mais il est pas encore trop tard, je pense. Tout dépend.
Il est jamais trop tard.
Non, bien sûr. Tout dépendra de maintenant, on va dire, la fameuse crise sanitaire. Mais bon, ça, on va pas trop s'attarder là-dessus. Non, mais en tout cas, oui, je franchirai le pas. Et moi, justement, j'avais l'intention d'aller aux États-Unis, donc pourquoi pas la Californie? Ça reste à voir, mais ça peut être un beau plan. Mais surtout pour apprendre la langue anglaise, en approfondissant la langue anglaise, voilà, parce que c'est important. Et ouais, découvrir de nouveaux horizons, une nouvelle culture, et voir comment ça se passe aussi l'entreprise aux États-Unis, qui est bien différente du modèle français, je pense, aujourd'hui.
Ah, si Denis acquiesce, ça veut dire qu'elle a des choses à dire.
Non, non, alors oui, bien sûr, c'est hyper différent. Je rejoins, je pense que l'expérience à l'étranger, c'est hyper riche d'un point de vue langue. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises où il faut parler anglais. Donc ça, c'est un super point. Après, je pense que culturellement, c'est super. Moi, j'ai étudié un an aux États-Unis et j'ai travaillé ensuite 5 ans là-bas également, sur l'autre côte, sur la côte Est. Mais je pense que c'est passionnant. C'est passionnant d'un point de vue systémique. C'est passionnant de voir comment, d'un point de vue relations humaines, d'un point de vue rapport au travail. C'est vraiment, je pense que c'est très, très enrichissant.
T'as des exemples concrets à nous donner ou pas?
J'ai des exemples concrets, ouais, j'en ai sûrement plein. Et puis je bosse dans une entreprise internationale aujourd'hui, donc c'est aussi complètement autre chose. J'étais dans une entreprise franco-française juste avant celle-ci, donc culturellement c'est assez, c'est vraiment très très différent. J'écarte les bras, mais dans un podcast on me voit pas, donc. Mais ouais, c'est très différent. En exemple concret, je pense qu'il y a un rapport peut-être beaucoup plus direct au travail. Il y a un rapport plus direct humain et donc qui se ressent dans le travail. En fait, c'est surtout ça. Il y a une culture qui est peut-être plus dans les formes en France, qui est peut-être plus dans le politique. Alors le politique, je pense, se ressent aussi aux US, mais il y a un rapport très direct au travail. Il y a un rapport de sens, il y a un rapport de spontanéité. C'est aux États-Unis, on change de travail beaucoup plus souvent. Je pense aussi qu'en France. Alors en France, ça commence à plus se développer. Et c'est rare maintenant qu'on fasse toute sa carrière dans une même entreprise. Mais voilà, moi j'ai habité 5 ans à New York et j'ai changé 5 fois de travail en 5 ans. Alors en faisant des plus courtes et des plus longues expériences, mais parce que voilà, le rapport est beaucoup plus dans le plaisir, dans la satisfaction et dans aussi ce qu'on peut donner dans notre travail. Il y a vraiment aussi un rapport de délivrer dans son travail et de remplir ses objectifs. Aujourd'hui, je bosse donc dans une entreprise internationale et il y a aussi beaucoup plus ce rapport au target, aux objectifs, à la façon de délivrer un travail. Donc il y a ce côté performant qu'on ressent peut-être plus quand même dans une culture américaine que dans une culture franco-française, je dirais, dans des grosses entreprises franco-françaises en tout cas.
Je rejoins ce que dit Sidonie rapidement. Moi, on m'avait raconté justement qu'entre la culture française et américaine, il y a une grosse différence. C'est par exemple lors d'une présentation PowerPoint. En France, on a déjà besoin de passer par tout le développement théorique avant d'arriver à la conclusion, tandis qu'aux États-Unis, ils aiment bien tout de suite arriver au but, à la conclusion directe, pour pouvoir en parler et savoir si on met les fonds ou pas. Tandis qu'en France, on a besoin de faire tout l'argumentaire, de démontrer que oui, ça peut marcher grâce aux différents arguments qu'on avance, avant d'arriver à la fameuse conclusion qui va, on va dire, solliciter les fonds des investisseurs. Bon. Donc il y a quand même une grosse différence d'un point de vue managérial entre les deux pays.
Ben justement, c'est intéressant que tu en parles parce que toi, tu as travaillé en tant que manageuse de restauration à New York. Comment fonctionne la gestion de personnel aux États-Unis par rapport à une entreprise française ?
C'est hyper multiculturel, ça c'est sûr. Alors on le ressent aussi beaucoup plus en France maintenant, je pense qu'avant. Mais moi j'ai travaillé dans des environnements où vraiment il y a vraiment cette notion culturelle qui était hyper importante et donc d'adaptabilité. Je pense que ça c'est une notion clé à avoir aussi. Tu parlais d'agilité, moi c'est des mots qui me parlent vraiment fort, mais l'adaptabilité. Et donc je pense qu'une expérience à l'étranger c'est ça aussi que ça apporte, c'est de l'adaptabilité parce qu'on est face à des publics vraiment et des interlocuteurs vraiment très différents. Et dans les grosses sociétés internationales c'est aussi ça. S'adapter à la situation, s'adapter aux interlocuteurs. Je pense qu'il y a, quand je dis interlocuteur, tu as la différence, tu me demandais là-bas, dans la restauration, bah, j'ai travaillé avec des gens de toute nationalité, de toute éducation, donc des gens très peu éduqués, j'entends scolairement, et des gens très éduqués, puisque donc aux États-Unis, c'est un pays où il y a vraiment des grands écarts hein, comme partout, mais en tout cas, c'est vraiment très marqué. Donc il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter, à la culture, à une culture qui peut être plus macho dans de certaines cultures, et donc manager en tant que femme, manager en tant que jeune. Il faut s'adapter au financement. C'est une culture qui est très, très portée par la finance, par les business cases. Donc il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter à beaucoup de choses. Et donc, en effet, je pense qu'une expérience à l'étranger ouvre, enfin en tout cas offre cette adaptabilité que tu gardes ensuite par la suite. En fait, tu le gardes toujours une fois que tu as cette compétence, enfin qui est plus un savoir-être, comme tu disais tout à l'heure.
C'est l'arme sous le coude, en gros, pour arriver dans une autre entreprise, dans son pays d'origine et se dire là-bas ça fonctionne comme ça et peut-être que ça fonctionne mieux.
Oui, alors il y a ça, il y a ça, c'est plus pour moi du coup du benchmark, de se dire, ok, en fait moi j'ai fait ces expériences-là et ces expériences-là aujourd'hui me servent puisque j'ai vu d'autres choses et du coup je peux les importer dans ma société ou dans mon métier, que ce soit maintenant ou hier ou demain, dans les différents postes. Mais il y a l'adaptabilité, je pense que c'est pas forcément dire ça fonctionne mieux, c'est en tout cas être quelqu'un d'adaptable. C'est adaptable, c'est être aussi abordable, c'est être accessible, c'est se faire comprendre, c'est comprendre les autres, c'est se mettre à la place d'eux. Tu parlais d'empathie aussi, Victor, tout à l'heure, il y a aussi cette empathie de comprendre les autres. Quand tu es adaptable, je pense qu'il y a toutes ces compétences-là qui en découlent. Et ça, c'est vrai qu'une école comme YouSchool, où tu peux choisir différentes formations, ou alors partir à l'étranger, ou faire des expériences très différentes, je pense que ça, c'est des super compétences à développer quand tu es étudiant, en tout cas.
C'est un vrai travail sur soi-même qu'il faut prendre le temps de faire. Et on voit qu'à suite à ça, je pense qu'on apprend beaucoup sur soi et ça nous permet d'avancer pour la suite. Et ça nous permet de comprendre les autres. Et c'est d'abord en faisant le travail sur soi-même qu'on peut ensuite, je pense, faire le travail sur les autres, en fait. Ouais.
Vous travaillez tous les deux dans un domaine assez particulier que sont les ressources humaines. Ouais. Généralement, quand on entend ça, c'est très cliché, mais les ressources humaines, ils virent les gens, ils embauchent les gens, ils font la paye, ils font le machin. Mais je crois que c'est plus que ça. Et d'ailleurs, je vais vous demander comment ça se passe au quotidien dans vos deux différents jobs. Donc toi, Victor, chez Auchan, comment se déroule ton job? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes missions, ce que tu fais dans ta journée, etc.?
Ouais, bien sûr. Là, actuellement, chez Auchan, alors le contexte est un peu difficile, on va dire. Ils sont sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc pour faire court, ils cherchent à trouver les meilleurs outils à mettre à disposition des salariés pour pouvoir les accompagner sur leur projet professionnel futur, et s'ils n'en ont pas, de permettre de le développer. Donc ça peut passer par des VAE, bilan de compétences, congé de création d'entreprise, si quelqu'un souhaite tout à fait.
VAE, ça veut dire ?
Validation des acquis d'expérience, oui. Okay. Pour le rappel, c'est bien. Et donc congé de création d'entreprise, si quelqu'un souhaite déjà développer une entreprise, on va l'accompagner. Il y a des conseils en évolution professionnelle pour ce genre de choses, internes dans l'entreprise et également externes, par des prestataires extérieurs. Voilà. Donc on est en train de construire tout ça, et c'est vraiment dans le but d'améliorer leur employabilité pour le futur, pour l'actuel bien sûr, parce qu'on sait que le marché du travail se transforme, l'organisation se transforme en elle-même, et ça va surtout bouger dans les 10 prochaines années. Donc ça, c'est un travail prévisionnel à faire dès maintenant, même s'il est déjà un peu tard. On l'a fait en tout cas chez Auchan aujourd'hui, et on espère que ça va marcher pour l'employabilité future.
Et toi, dans ce type de management et dans cette percussion, de se dire, y a des gens qui travaillent pour un groupe, on va les aider peut-être à valider des choses, à augmenter du coup leur niveau de compétence dans tel et tel domaine, ou les accompagner pour leur dire qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, même s'ils sont déjà dans l'entreprise. Comment tu le ressens en tant que personne et en tant que professionnel?
C'est très dur parce que on aimerait faire pour eux, parce que des fois on sent qu'ils sont un peu dans le flou, ils savent pas trop où ils peuvent se projeter. C'est un travail de longue haleine, il faut prendre le temps, c'est beaucoup d'écoute, il y a de l'empathie qui passe par là, et une fois qu'ils perçoivent un peu ce pourquoi ils sont faits pour plus tard, puisque aujourd'hui ils sont chez Auchan, ils peuvent être poissonniers, bouchers, être employés dans un rayon, caissiers aussi, il y a beaucoup de caissiers chez Auchan, caissières. Et demain, si on leur dit que leur métier va se transformer ou ne va peut-être plus exister, c'est compliqué. Et là, ils se projettent donc comme dans une phase très floue, et c'est à nous de les aider à savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour plus tard, est-ce qu'ils peuvent trouver des compétences qui seront valables pour plus tard. Et là, il y a un vrai travail d'employabilité qui doit être fait, de la formation bien sûr, et c'est le rôle des managers de les aider dans cette tâche. Et bien sûr, eux-mêmes, il faut qu'ils se projettent aussi plus tard, qu'est-ce que eux vont pouvoir faire pour plus tard face à ces collaborateurs qui aujourd'hui sont encore dans le flou. Mais bon, il y a des solutions qui existent, les choses se font tout doucement mais sûrement, et je pense que ça va réussir, oui.
Sidonie, quand t'entends ça, est-ce que chez toi ça fait écho aussi d'entendre les bilans de compétences, les VAE, les choses comme ça? Toi, comment ça se passe de ton côté en tant que people business partner?
Ça fait écho, oui, ça fait écho. C'est bien sûr des noms qui me parlent. C'est pas du tout moi ce que je fais au quotidien.
Raconte-nous, montre-nous la différence pour montrer aussi la diversité que sont les RH.
Oui, tout à fait. On n'est pas dans le même contexte, je pense, forcément, qu'une entreprise comme Auchan qui doit forcément se réinventer. Donc on n'est pas dans le même contexte. Moi, je travaille dans une entreprise internationale qui va bien, qui est une entreprise qui vend de la bière. Et la bière, évidemment, tout le monde
L'alcool est à consommer avec modération, bien évidemment.
Tout le monde continue d'en boire, donc c'est une entreprise qui se porte bien, donc on n'est pas dans cette démarche aujourd'hui, en tout cas là dans ce qu'on propose aujourd'hui, on n'est pas dans les bilans de compétences ou dans les VAE, mais bien sûr c'est des choses que j'ai mis en place dans mon parcours, dans d'autres entreprises également. Aujourd'hui, moi je décrirais les ressources humaines comme un accompagnement qui serait vraiment sur deux pôles, le pôle collaborateur et le pôle manager, directeur, responsable. Tu dis tout à l'heure, on dit que les ressources humaines, c'est ceux qui virent et qui embauchent. Oui, ben, en vrai, les ressources humaines, c'est celui qui va gérer le collaborateur de son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie de l'entreprise. Donc en effet, il y a l'entrée, il y a la sortie, mais il y a aussi tout ce qui va se passer au milieu. Et donc, il y a l'accompagnement vers une mobilité interne pour faire une mobilité latérale et développer d'autres compétences comme ce que Victor tu décris. En effet, bon, ça l'employabilité, c'est quelque chose que chaque employeur on a tous ça comme responsabilité. Les métiers se développent, les compétences se développent, les compétences d'hier sont pas les compétences de demain. Donc ça, on a toute cette responsabilité d'accompagner ce développement des compétences. Et donc ça passe par la formation, ça passe par les mobilités, ça passe par
les mobilités, ça veut dire peut-être des mutations, c'est ça, si jamais.
Ouais, des mobilités internes, ça va être des mobilités latérales qui sont donc suraller sur un poste qui est le même niveau que ton poste actuel, mais qui développe d'autres compétences. Donc, soit ça peut être un poste, par exemple, dans intra-ressources humaines. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans mon ancienne entreprise, à un moment, je faisais du recrutement. C'est peut-être partir vers la formation, c'est peut-être partir vers de la gestion de projet.
Ça reste dans le même niveau hiérarchique, mais ça va être totalement différent en termes de compétences à appliquer.
Ouais, puis aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises aussi, et ça, c'est hyper important aussi en tant qu'étudiant, je pense, de l'entendre. On peut travailler dans un domaine et passer dans un autre domaine. C'est aussi des choses qui sont vraiment possibles aujourd'hui en entreprise, c'est-à-dire je travaille en ressources humaines et puis demain peut-être que je serai en logistique parce que j'ai la possibilité, c'est une entreprise qui y offre des parcours internes, il y a beaucoup d'entreprises, alors forcément il faut être dans des entreprises d'une certaine taille déjà, mais qui ouvrent aussi des parcours internes et où on peut passer d'un métier à un autre. Je pense qu'on n'est plus obligé aujourd'hui de faire des études, moi j'ai fait des études de psycho, j'ai jamais fait de psychologie en vrai, j'ai travaillé en RH, j'ai travaillé dans la restauration, aujourd'hui je travaille dans une entreprise qui est encore complètement différente de ce que je faisais hier. Donc, je pense qu'il n'y a pas un parcours dessiné. Donc, on peut faire plein de choses. Il faut s'en donner les moyens, c'est sûr. Il faut développer. Je pense que les savoir-être, c'est essentiel. Tout à l'heure, on parlait de ça. Les savoir-être, c'est essentiel parce que ça s'apprend beaucoup plus difficilement. Les savoir-faire, finalement, des compétences, ça se développe. Des compétences en ressources humaines ou en logistique ou en achat.
On peut l'avoir facilement, mais le savoir-être, c'est vraiment une particularité qui va vous démarquer, finalement.
Oui, je pense que ça, les langues sont des choses qui démarquent aujourd'hui sur le marché du travail. Et donc, moi, dans mon métier de ressources humaines aujourd'hui, en effet, je gère la vie du collaborateur de son entrée à sa sortie en passant par beaucoup d'accompagnement. Je pense que tu parlais d'écoute et d'empathie. Je pense qu'il y a de l'écoute et de l'empathie. Je parlais tout à l'heure du fait d'être accessible. Pour moi, la fonction RH doit être une fonction accessible où le collaborateur peut venir développer sa situation. J'ai envie de me développer, j'ai envie de grandir. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?
Il a une question, il vient voir et il fait moi j'ai cette situation-là, comment on peut faire?
Tout à fait, c'est ça. Et c'est accompagner les managers aussi sur l'organisation. Je pense qu'on a vraiment un rôle d'avoir. Je trouve que les ressources humaines ont finalement un rôle, une vision externe. Et les managers ont leur vision business, ils sont dans leur business, ils déroulent leur business au quotidien, donc ils ont leurs objectifs et leur vision business. Nous, en ressources humaines, on doit comprendre le business, on a un rôle qui est hyper, qui est pivot au sein de l'entreprise. On doit comprendre le business, on doit savoir comment ça marche, on doit savoir c'est quoi les résultats, on doit savoir qu'est-ce qui est important pour l'entreprise pour faire du chiffre et pour faire du résultat. Mais on a cette vision people derrière, on a cette vision humaine qui offre un prisme différent, une vision différente. Et ça nous permet de challenger les managers, de challenger les responsables, les directeurs, de dire « Ouais, c'est vrai, cette personne-là pourrait évoluer sur tel poste, mais et pourquoi pas sur un autre poste ?» Ou « Oui, on met un manager qui a, je sais pas, 10 personnes en dessous de lui. Et finalement, pourquoi on mettrait pas un manager avec 2 responsables en dessous de lui ? Et puis, on redévelopperait des équipes, on rapprocherait d'autres équipes. » On a cette vision organisationnelle qui est parallèle, qui est différente. En tout cas, de ce que les managers et les directeurs peuvent avoir. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant dans la fonction RH.
En fait, finalement, vous êtes dans l'entreprise, mais pas vraiment, parce que vous êtes un peu à l'écart. Vous avez une vision plus globale de ce qui se passe. Les RH, ça veut dire que ça touche à un poste qui va être en marketing, en commerce, en machin, en journalisme. Enfin, je fais grossièrement, mais nous, on a une vision sur tout ce qui se passe. Et on donne des conseils ensuite aux autres.
Je dirais que oui, c'est un peu par définition la fonction support par excellence ou service d'appui. Et en fait, si vous voulez, la gestion des ressources humaines, bon, il y a la grosse partie administrative du personnel, recrutement, marque employeur, mais il y a surtout cette fameuse gestion des compétences. Et après, il y a la gestion de l'épanouissement du personnel et donc au travail, et savoir comment le collaborateur s'épanouit au travail, quel plaisir il rencontre dans ses tâches. Et si on arrive à parler de savoir-faire et de savoir-aimer faire également, donc les appétences, parce que les compétences c'est beau, mais il y a aussi les appétences qui comptent dans le monde professionnel. Là, on gagne. Et si on comprend le collaborateur dans ses pulsions les plus infinies, ses retranchements, sa nature intérieure, là, on peut gagner. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'engager jusqu'au bout et qu'il va rester avec nous. Parce qu'il y a certes la rémunération qui compte, mais il y a aussi les appétences. Et si on parvient à les identifier, on sait pourquoi il aime travailler, je pense qu'on peut le garder longtemps dans l'entreprise.
Donc pour résumer, quelles sont les qualités nécessaires à avoir pour travailler dans le milieu et le monde des ressources humaines ?
J'aime beaucoup les mots que tu viens de dire, Victor. Donc, il y a des choses que je vais reprendre. Je pense qu'il y a aimer faire. Je pense qu'il faut aimer son travail. Dans tout, mais je pense que dans les ressources humaines, c'est hyper important. Il faut aimer l'humain. Il faut aimer accompagner. Il faut aimer entraîner. Il faut aimer donner de l'énergie.
Je sais pas pourquoi je sens, mais que tu aimes ton travail, en
ouais,
fait.
Ouais, j'adore. Sens. Vraiment, j'adore. J'adore ce sens-là qu'on met dans le travail. Alors, faut pas oublier, hein. Faut pas tout rendre rose. C'est aussi une partie très administrative. C'est aussi des parties ingrates. C'est aussi des licenciements. C'est aussi, évidemment, il y a toutes ces parties-là. Faut pas tout rendre rose. Mais il y a cette partie. J'aime vraiment ce que tu as dit dans aimer faire, il y a aussi appétence, c'est vrai. En fait, si tu arrives à faire donner le meilleur de lui-même à un collaborateur, en effet, il va être engagé. Et en fait, un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui fait réussir ton entreprise. Un collaborateur désengagé, tu continues à le payer, mais en vrai, ça fait vraiment pas de résultat pour ton entreprise. Donc, je pense qu'il faut garder en tête ce côté business, puisque on est une fonction support, mais on n'est pas forcément une fonction support, c'est une fonction de coût, hein, pour l'entreprise. Donc, il faut pas oublier qu'on doit aussi faire marcher le business. Et donc, pour ça, il faut qu'on rende nos collaborateurs meilleurs, il faut qu'on les fasse grandir. Et ça, c'est tout notre rôle. Et donc pour moi, faut avant tout aimer faire ça et aimer l'humain, aimer le faire grandir. Ça, c'est essentiel.
Victor, toi, les qualités que tu souhaites mettre en avant pour travailler dans les RH, quelles seraient-elles ?
Moi, il y en a une qui me vient, c'est la fameuse qualité de fédérateur. Je pense qu'il faut savoir fédérer dans les ressources humaines son équipe, les personnes qu'on a à charge, mais qu'on aime justement porter et qu'on aime faire, on va dire, qu'on aime engager avec nous dans l'équipe. Donc oui, la fameuse notion fédératrice, ça c'est important. Et aussi, l'engagement, ça fait partie d'une qualité. Il faut savoir s'engager, s'impliquer dans le travail, être motivé. Mais il faut trouver justement les sources qui nous permettent de nous motiver au quotidien. Ça c'est important. Et donc c'est un travail sur soi-même, avec d'autres personnes évidemment. Tout ça, ça fait partie de l'écoute et de l'entraide. Mais je pense que à partir du moment où le collaborateur est impliqué, il va pouvoir produire justement les résultats attendus et il va pouvoir s'épanouir à long terme. Et si ça marche pas toujours, il faut pas hésiter à mener des entretiens, à comprendre pourquoi ça marche plus. Ça reste de l'écoute, de longue durée. Et s'il souhaite aller voir vers d'autres eaux un moment, d'accord, c'est possible, puisque on le rappelle, c'est pas toujours tout rose. Il y a des fois où ça marche plus. Il y a malheureusement un licenciement qui arrive, une démission, ça peut arriver également. Mais on fait le job jusqu'au bout, on cherche à le faire épanouir, et quand il s'épanouit dans l'entreprise, on est content de l'entendre. Mais bien sûr, il faut le comprendre comment il s'épanouit, et ça, c'est un vrai travail de gestion des compétences et de savoir-être également.
Vous avez fait deux formations très différentes, mais qui finalement vous amènent dans un même milieu. Est-ce que vous pensez que vos deux formations, donc d'un côté la psychologie du travail, de l'autre le design thinking, également ce master de gestion et de management, eh bien ça vous démarque des autres profils qui travaillent dans les RH qui, eux, auraient eu un parcours entre guillemets plus classique ?
Ça démarque alors. Je me lance. Moi, ça me démarque. Mais alors, je pense qu'il faut être objectif. Ça me démarque dans le positif sur certains points et dans le négatif sur d'autres points. Aujourd'hui, sur l'adaptabilité, sur la façon d'approcher les autres, de comprendre, d'être empathique, de se mettre à la place, de penser autrement, de faire le pas de côté pour essayer de comprendre une situation. Ça, je pense que ça démarque vraiment positivement et j'ai adoré ma formation pour ça. Par contre, en RH, clairement, il me manque, moi, l'aspect droit du travail, droit social, que je n'ai pas vu en psycho. Et oui, ça, je pense qu'on parlait de formation complémentaire tout à l'heure. Ouais, moi, ça, bon, alors, j'ai appris beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, je fais des procédures individuelles, etc. Et j'ai pas fait de droit, mais ça me démarque dans un autre sens, je dirais.
Ouais, je reviens à ce que dit Sidonie. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas et en fait, faut la vivre, cette gestion des ressources humaines. C'est difficile de l'apprendre très théoriquement. Il y a plein de situations. Il vaut mieux la vivre et faire son expérience. Être conseillé, bien sûr, accompagné, c'est toujours mieux. Hein. Mais il faut la vivre.
Et ta formation, elle t'a apporté des compétences supplémentaires ou pas?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette fameuse notion de complémentarité. Ça a permis d'apporter un bagage supplémentaire, c'est vrai. Mais à condition qu'on puisse l'utiliser dans la vie réelle. Et j'ai réussi jusqu'à présent à le faire, donc ça va, je suis plutôt satisfait. C'est pas toujours évident, hein, c'est proposer des nouvelles méthodes créatives qui vont à l'encontre des fois de ce qui se fait en pratique de manière classique. Donc il faut rester humble, il faut proposer, il faut faire en sorte de proposer au bon moment aussi, ça compte. Mais voilà, ça permet, oui, de proposer des nouvelles choses, de ne pas rester trop dans les fameuses méthodes archaïques, même si elles se valent encore, hein, elles se voudront encore demain, je pense. Mais voilà, proposer ce qui marche bien et ce qui peut marcher d'une manière un peu plus nouvelle, pour permettre de faire découvrir au monde de l'entreprise ces nouvelles méthodes qui existent depuis un moment et qui vont encore continuer à émerger. Donc voilà. Mais c'est un beau bagage supplémentaire, oui, c'est sûr, pour se différencier, c'est pas mal.
Et quelles sont les innovations, et notamment quand on parle de ton master de management, de l'innovation et du design thinking, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ce management et dans cette gestion des ressources humaines? Ce que tu parlais de créativité, d'innovation, qu'est-ce qui innove, qu'est-ce qui va différer d'une personne qui va déjà travailler dans les ressources humaines depuis quelques années, qui lui a eu un parcours classique et qui voilà fait son travail, aime son travail, mais peut-être qu'il a des pas forcément des compétences, mais plutôt des idées qu'il n'aurait pas forcément, alors que toi tu vas arriver, tu les as.
Oui, c'est vrai.
Quelles sont-elles? C'est ça ma question.
Quelles sont-elles? Ah, c'est pas évident de répondre, mais c'est vrai que grâce à ce qu'on nous a donné et ce qu'on nous a permis d'acquérir en termes de connaissances, on a réussi à développer une intelligence qui est un peu plus soudaine par moment, plus immédiate sur des problématiques complexes. Alors, faudrait citer quelques exemples. Mais c'est vrai que oui, ça permet de se projeter un peu plus, travailler plus facilement en équipe, puisqu'on aura pu se connaître à travers de la gestion de projet, en tout cas dans ma promotion, hein, à force de vivre avec 10 personnes pendant 3 ans, vous savez comment elles fonctionnent et vous savez aussi ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas faire. Donc ça permet de bien se marier ensemble et d'avancer en équipe. Ouais, j'ai pas vraiment de réponse à donner précise sur cette question parce que ça se vit et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut développer pendant qu'on le fait, en fait, voilà.
Et justement, en le vivant, en étant dans ce milieu, logiquement, bon, vous accompagnez les collaborateurs, mais vous, on vous accompagne aussi, logiquement, puisque c'est pour tout le monde, les ressources humaines, même ceux qui y travaillent.
Alors, on dit souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, mais non, pas du tout.
En plus, c'était pas le sens de ma question.
pas du tout, oui, je pense qu'on est accompagné. Je pense que il y a vraiment un travail d'équipe, en fait. Je pense que moi, j'ai adoré la psycho aussi à la base pour faire un peu du pluridisciplinaire. Je m'étais toujours vue dans un cabinet avec différentes disciplines autour de moi. Bon, finalement, je suis pas psychologue en cabinet du tout. J'aime ce côté pluridisciplinaire de s'échanger un peu les points de vue. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'accompagne aussi. Moi, je travaille dans une entreprise donc internationale et avec une forte culture américaine qui est très forte sur le feedback. Et donc, on se fait... c'est très important dans cette entreprise Alors, on nous donne du feedback, du feedback.
Traduis le feedback pour les non-anglicistes.
Un retour d'expérience, un retour sur toi. Retour d'expérience, c'est-à-dire que tu vas faire une présentation, on parlait de PowerPoint tout à l'heure, tu fais une présentation, ben on va te dire, ou pas, hein, c'est pas systématique, mais super sur cette partie-là, ben tu vois, j'aurais bien vu ça, ou moi je pourrais dire aussi bien à mon équipe, mais aussi bien à mon responsable, voilà, ça m'embête ces points-là, voilà tes points d'amélioration, mais aussi bien dans un sens hiérarchique supérieur que dans ton équipe, donc je trouve ça très riche, et donc en accompagnement, moi ça me fait un peu penser à ça, je pense que on s'apporte beaucoup en équipe, on s'apporte donc par le feedback, par le retour d'expérience, que ce soit donc de nos équipes, mais aussi des personnes avec qui on travaille, en ressources humaines, on travaille, nos clients sont nos clients internes, sont des directeurs et nos collaborateurs, hein, sont nos clients internes. Et donc, tous les retours d'expérience qu'on peut avoir, je pense que c'est très riche et c'est comme ça aussi qu'on nous accompagne. Et après, nous, professionnellement, on nous accompagne aussi, bah oui, on nous accompagne dans notre carrière. Après, je pense qu'il y a quelque chose d'important quand même à savoir en RH, c'est que c'est pas à nous d'aller prendre la main du collaborateur pour le faire évoluer et pour lui donner un poste. Nous, on peut lui donner les clés, on peut lui dire, ben ouais, ok, t'as envie d'évoluer, ben est-ce que tu as pris des contacts au sein de l'entreprise? Est-ce que tu as lu des choses pour te donner des idées? Est-ce que tu as parlé avec des collègues qui font peut-être ce travail-là pour savoir un peu c'est quoi son travail? Peut-être on peut envisager passer quelques heures auprès de cette personne-là pour savoir un peu c'est quoi son quotidien. Puis il n'y a pas que la formation. La formation, on parle de 70-20-10. Seulement les 10% sont de la formation. Les 70, c'est de l'expérience. C'est ce que tu vas prendre en expérience. Donc tout va pas. Faut pas non plus dire, en fait, maintenant, je veux travailler aux achats, il me faut me faire une formation d'acheteur. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Il faut aussi, bien sûr, il y a des compétences clés à avoir. Il y a des compétences socles à avoir. Mais il faut aussi se développer soi-même. Ou je veux devenir manager, ben voilà, il me faut un poste. Ben non, en fait, ça se passe pas que comme ça. On est chacun maître de notre carrière. C'est à nous de nous donner les moyens, de nous former, certes, mais aussi d'aller prendre de l'expérience, demander de l'aide à nos pairs. C'est comme ça que se crée ta carrière. Et on parlait d'expérience à l'étranger, c'est aussi se faire des expériences différentes pour se créer sa propre carrière. C'est pas quelqu'un qui va faire ta carrière à ta place, c'est toi qui es maître de ta carrière.
Et la psychologie du travail, ça t'a apporté quelles compétences supplémentaires par rapport à un parcours qu'on verrait plus classique?
Je pense que c'est une façon de penser la psychologie du travail. C'est plus un mindset, une façon de penser. On dit c'est psychologie du travail et des organisations. Donc en fait, tu as bien sûr un rapport à l'autre. Je pense que quand tu t'orientes dans des études de psychologie, c'est que déjà tu as un rapport à l'autre qui est différent. C'est que déjà pour toi, l'autre est important. Enfin, l'autre, en tout cas, est source de questionnement, est source d'importance, est source, je pense que c'est des choses qu'on a en nous quand on s'oriente dans ces études-là. Et ensuite, la psychologie du travail va donner un autre regard sur les organisations. On apprend vraiment comment fonctionne une organisation. On apprend comment fonctionne un système. On apprend tout ce qui est systémie, donc tout ce qui est organisation. On peut parler de systémie dans la famille. On peut parler de systémie dans les entreprises. C'est tout ce qui est organisation. Et en fait, on va apprendre tout ça. Donc, je pense que ça donne un très bon point de vue analytique d'une organisation et d'une personne. Je pense que c'est ça, la compétence supplémentaire que ça apporte.
Et pour revenir sur ce que disait Sinoni il y a quelques instants, justement, ça tombe bien, puisque nous, c'est ce qu'on essaye de faire acculturer chez Auchan, la maîtrise de son parcours professionnel, être acteur de sa carrière. C'est pas évident, parce que chez Auchan, il faut savoir qu'ils ont beaucoup été pris par la main au début. On leur disait, fais cette formation, tu vas voir, ça va te permettre de développer telle et telle compétence pour plus tard. Aujourd'hui, ils ont pas vraiment l'initiative d'eux, même si ça commence à se traduire en pratique. C'est ce qu'on cherche à faire, en tout cas. Donc c'est un travail, encore une fois, de longue haleine, mais ça va petit à petit se propulser, de se mettre en marche. Donc voilà, mais c'est très important d'être maître de sa carrière, c'est pour la suite et pour le vivre, autrement... on s'épanouit pas et on rigole pas vraiment, quoi.
Toi, tu le perçois comment, tu vois, ce rapport systémique dont t'as parlé, Sidonie, fait d'avoir une approche un peu plus particulière au niveau organisationnel, au niveau relationnel?
Ça permet d'avoir, une vision un peu plus centrée et donc un domaine spécifique permet justement de se spécialiser. Mais après, moi, j'aime bien rester, généraliste, connaître tout ce qui coexiste dans une organisation. Mais il faut aussi savoir se spécialiser et avoir des spécialistes, c'est toujours très bon. Mais moi, j'aime bien aussi rester généraliste et donc voir la vision des choses.
Un peu
touche à tout. Oui, voilà, rester global et pour avoir tous les paramètres en jeu, pour voir tous les paramètres en jeu. Mais les spécialistes comptent beaucoup. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne vise pas vraiment être expert sur un domaine. J'aime bien rester global et je pense que ça peut aussi permettre de réussir.
Est-ce que vous pensez que vos deux formations seraient potentiellement complémentaires? Un peu une partie plus centrée sur la personne et sur comment elle fonctionne, et une autre partie sur des techniques plus spécifiques, plus entreprises, plus créatives et instinctives?
Je pense que c'est hyper complémentaire. Je pense que, encore une fois, moi j'ai adoré ma formation. En fait, je pense que j'ai fait cette formation parce que le cursus me plaisait. Je ne l'ai pas fait pour faire un métier. Je l'ai fait parce que je voulais suivre cette formation de psychologue. Je ne l'ai pas fait avec un objectif de métier derrière. Je ne l'ai pas fait avec un objectif de parcours professionnel derrière. Je l'ai fait vraiment pour les études. Donc, évidemment qu'elles m'ont plu, puisque c'est un sujet d'appétence, comme Victor disait tout à l'heure, pour moi. Maintenant, il manque un aspect très concret. Il manque un aspect, et je le sentais déjà dans ma formation, il manque un aspect très professionnalisant, disons, ce que Victor peut peut-être davantage avoir.
Avec une alternance, logiquement, il fait une alternance, ça, c'est quand même du concret tout de suite, quoi. Il va avoir 3 jours de... C'est comment que ça s'articule, ta semaine,
ouais,
déjà?
C'est vrai que ça aide, mais c'est qu'un volet, après, parmi tant d'autres. C'est 3 jours, 2 jours, actuellement. 3 jours en entreprise, 2 jours en cours. C'était le rythme actuel cette année.
Pareil, l'alternance, ouais. Moi, c'est pas possible en psychologie du travail. Je vois pas comment c'est compatible, mais en tout cas, je pense que c'est... aujourd'hui, j'ai un alternant avec moi qui travaille. Je suis bluffée par les missions qu'il peut faire. Pour le coup, c'est vraiment hyper professionnalisant. Après, en effet, c'est qu'un volet. Je pense qu'il faut avoir un bon socle. C'est hyper important. Mais l'alternance, c'est beaucoup développé ces dernières années. Et je trouve que ça, c'est un vrai atout. C'est un vrai atout pour les étudiants.
Et je rejoins sur ce que disait Sidonie. C'est vrai que moi aussi, j'ai choisi cette formation FGES, la licence gestion à l'époque, parce que j'avais envie de les faire pour les ressources humaines, mais pour la formation elle-même. Alors au début, ça peut paraître un peu étrange, mais finalement, c'est ce qui m'a attiré. Je connaissais quelques petites choses en ressources humaines et tout ce qu'il y avait autour du marketing, contrôle de gestion, finance d'entreprise et tout, j'y connaissais rien. Mais c'est pas grave, on découvre tout ça avec et on peut le manier aussi et se rendre compte que ça fait partie d'un tout et c'est important de le connaître. Autrement, on pourrait pas vivre la gestion des ressources humaines pleinement puisque ça se rejoint. On travaille aussi pour la finance, le core business, le cœur de métier, le marketing et toutes les autres fonctions qui constituent l'entreprise, quoi. Donc s'il y a un conseil à retenir pour les jeunes étudiants qui vont entrer dans les études, c'est prendre ce qui vous attire tout de suite. Et c'est pas grave si vous savez pas vraiment où vous voulez aller encore, parce que si vous partez sur vos appétences, sur ce qui vous attire tout de suite, je pense que vous allez découvrir après, avec le temps, ce pourquoi vous êtes fait.
L'amour du cursus avant, ouais. avant la vision professionnelle.
Ça peut marcher.
D'accord. Quel développement ou amélioration, ou même ça peut peut-être même rester comme ça, pourrait être mis en place au sein du domaine des ressources humaines françaises? Là, je fais appel à votre créativité. Qu'est-ce que vous verriez d'intéressant à peut-être améliorer ou tout simplement à laisser en place quelque chose qui fonctionnerait ou qui ferait mieux fonctionner?
Non, j'ai une première idée, mais c'est très idéaliste et bon, c'est pas grave, on va le dire quand même, c'est pas grave, on verra bien si ça se développe. Moi, j'aimerais pouvoir trouver un outil qui permet à un instant T de savoir si le collaborateur est vraiment épanoui, est-ce qu'il est au summum de sa performance, en termes d'épanouissement, hein, pas seulement en termes de résultats, et si il peut continuer comme ça sur cette lancée pendant plusieurs années, ou si au contraire, ça va tout doucement régresser. En fait, j'aimerais savoir son rythme, son battement, savoir si on pouvait le mesurer à un instant T, ça ce serait chouette. Ça n'existe pas encore. Hein,
c'est un peu comme les jeux vidéo où
tu gères
un personnel de zoo et tu vois s'il a des bonhommes contents ou pas.
Oui, complètement. On pourrait le comparer à cela. Mais ouais, j'aimerais bien, pour savoir s'il est vraiment épanoui dans son travail, et si c'est plus le cas, comment on peut faire pour vite le remettre en marche, et ou autrement trouver ce pourquoi il est fait, encore une fois.
Je te vois sourire, Sidonie. C'est quelque chose auquel tu as déjà pensé?
Non, ça me fait penser à pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ou autrement? Je pense qu'en fait, c'est très propre à chaque entreprise. Chaque entreprise a sa propre gestion des ressources humaines. Il y en a où c'est de la gestion de ressources et il y en a où c'est de la gestion humaine. Et c'est très différent. Moi, ce que j'aimerais pour cette fonction-là, c'est que ce soit toujours l'humain au centre avec un point de vue business. Faut pas s'imaginer qu'on vit dans un monde de bisounours. Enfin, on a tous envie d'avoir notre salaire à la fin du mois et pour ça, il faut que l'entreprise marche. Donc on gère pas pour que l'homme, avec un grand H, bien sûr, soit heureux dans l'entreprise. On gère pour qu'on développe des appétences, pour qu'on développe une envie de travailler et que du coup, avec cette envie collective, avec ce projet collectif, on développe une entreprise. Et ça, pour moi, c'est de la vraie gestion humaine pour rendre une entreprise belle, rentable, mais où chacun a sa valeur ajoutée et chacun trouve du sens. Je pense que la question du sens, moi, si je devais changer quelque chose en ressources humaines, c'est d'avoir le temps de pouvoir donner à chacun le sens qu'il est venu chercher dans l'entreprise. Quand on va quelque part, on vient chercher quelque chose. Et en fait, il y a beaucoup de gestion quand même, hein, dans les ressources humaines, donc on n'a pas forcément le temps de prendre ce temps très qualitatif avec les collaborateurs pour savoir qu'est-ce que tu es venu chercher, comment on peut faire pour te donner ce que tu es venu chercher. Et en fait, si on arrive à remettre l'humain au centre et que l'humain soit, que la personne est satisfaite et il trouve du sens, c'est en cohérence avec ses valeurs, je pense qu'on a tout gagné, je pense que l'entreprise a tout gagné, je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant puisque la satisfaction intrinsèque, il y a bien sûr la satisfaction de la rémunération, mais même avec un très bon salaire, si tu aimes pas ce que tu fais, si t'es pas en accord avec les valeurs, si tu n'y trouves pas de sens, bien sûr, en fait, du coup, ton moteur à ce moment-là sera de venir chercher ton salaire, mais ce sera juste ça. Et si tu arrives à aussi combler tes autres moteurs, je pense qu'on a tout gagné. Et c'est ça devrait être ça, les ressources humaines. C'est pas toujours ça, mais ça devrait être ça.
Moi, ça me fait réagir parce que je pars dans un milieu où je vais pas être très très bien payé, mais comme j'adore mon taf, voilà. Donc il y a toute cette dialectique et je sentais, Victor, que tu t'abreuvais des paroles de Sidonie.
Oui, c'est ça. Bah, je suis en phase, hein. C'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun est constitué de motivations intrinsèques profondes. Et si l'entreprise parvient à nous activer ces motivations intrinsèques profondes chez chaque personne, bah, on va voir que la personne va s'épanouir et va donner l'excellence, quoi. Le meilleur de lui-même. Il va développer son plein potentiel. Et là, forcément, si ça marche bien pour lui, bah, il sera rémunéré à sa juste valeur. Si par contre, on n'arrive pas à toucher ses motivations intrinsèques profondes au plus profond de lui-même, oui, ça peut paraître plus compliqué. Après, toute politique salariale se respecte, hein, en termes de rémunération. Mais c'est vrai qu'on pourrait des fois la revoir peut-être à la hausse pour ceux qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Et puis, des gens excellents entre eux, ça crée aussi une émulsion.
C'est très fort. Ouais.
Quand on est heureux dans ce qu'on fait, quand on met de l'énergie dans ce qu'on fait, quand le travail est apporteur d'énergie, c'est beaucoup plus fort que quand on est dans un milieu parfois...
Et ça peut motiver des personnes qui sont peut-être un peu plus... Voilà, par exemple, le petit jeune qui débarque dans l'entreprise, qui a envie de faire ses preuves, va peut-être pouvoir motiver des personnes qui sont là depuis 10-15 ans, qui font leur travail, qui sont contents, mais sans plus.
Bien sûr, bien sûr. L'intergénérationnel est passionnant en entreprise, c'est sûr.
Tout à fait. Donc, par effet de contagion, en fait, ça se transmet. Et c'est de la bonne contagion.
Finalement, dans un recrutement, avant, on se basait beaucoup sur l'expérience. Qu'est-ce qu'il a fait comme stage? Qu'est-ce qu'il a fait comme expérience professionnelle pendant l'été? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se tourne plus vers... On cherche une personnalité plus qu'une expérience. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut démonter ce mythe?
Non, on peut pas démonter ce... On peut pas démonter ça. Moi, je pense qu'en effet, on cherche un savoir-être. C'est sûr. Moi, quelqu'un qui arrive avec des super expériences, exactement dans ce que je recherche, mais qui n'a pas le savoir-être, c'est non. Alors que quelqu'un qui a de moindres expériences ou dans un domaine parallèle, pas tout à fait ce que je recherche, mais qui a un super savoir-être et qui a démontré qu'il était adaptable, qui avait des capacités d'apprentissage, qui a de la volonté, qui a de l'envie, bon, ben, je serais beaucoup plus...
Et qu'il est souriant.
Et qu'il est souriant, ça c'est
parce
vraiment
important. C'est la jovialité quand même.
mais je serais beaucoup plus à même de faire le pas. Je pense que c'est essentiel. Après, évidemment, hein, les expériences sont hyper intéressantes maintenant. Moi, j'adore les parcours atypiques. Enfin, j'ai un parcours atypique. Je ne peux pas dire le contraire. Je pense qu'on essaie. Alors, il y a encore des entreprises, il y a encore des recruteurs qui cherchent. Voilà, il faut 5 ans d'expérience dans ce domaine-là.
Il faut
ou
avoir
10 ans.
Fait HEC, l'ENA, machin, blabla. Voilà. C'est bon. OK, toi, on te prend.
Exactement. Toi, Louis, d'ailleurs, je ne crois pas que je vais te prendre du coup.
Mais... Ah, mince, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'ai-je fait?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper aussi attrayant d'avoir des parcours divers, d'avoir fait des expériences dans d'autres domaines, d'avoir travailler, d'avoir fait des jobs d'été qui apportent aussi vachement d'expérience. Hein. Enfin, voilà, là, pour les jeunes étudiants, moi, je pense qu'avoir bossé dans la restauration, avoir bossé dans des magasins, avoir...
Dans l'animation, par exemple.
Dans l'animation, non, mais voilà, avoir fait des podcasts, je pense que c'est hyper... C'est hyper riche, on se développe comme ça, en fait. On se développe sûrement plus que juste en ayant fait des stages dans notre domaine, donc c'est hyper... C'est aussi hyper intéressant.
Non, clairement. Mais le savoir-être, hein, tout à fait, ça compte beaucoup. Et c'est ce qu'on recherche avant tout. La personnalité est une chose, mais les savoir-être encore plus. Et oui, l'expérience aussi, hein, forcément, ça s'accompagne avec. Il faut savoir le prouver qu'on a su faire et qu'on a ces savoir-être avec nous, quoi. Si on peut le prouver, c'est encore mieux, quoi.
Victor, si tu avais un conseil à donner à des auditeurs ou des futurs étudiants ou étudiants actuellement qui souhaiteraient, après avoir écouté ce fabuleux podcast, entreprendre des études pour travailler ensuite dans les RH, qu'est-ce que tu leur dirais?
Alors, plusieurs choses.
C'est quoi le leitmotiv? Mais,
ouais, le leitmotiv. Disons qu'il faut apprendre à se connaître soi-même pour commencer. Et ensuite, après, vous allez pouvoir vous épanouir pleinement. Mais c'est déjà un travail à faire sur soi-même. Et donc là, j'entends par là connaître ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait ce que vous aimez faire chaque jour. Et pourquoi pas pour plus tard, hein. Vous pouvez être aussi un peu idéaliste. Hein. On n'est pas obligé d'être tout le temps pragmatique, hein. On peut rêver. Mais justement, apprendre à se connaître et à savoir ce qu'on aime faire dans la vie, ça va permettre de s'épanouir dans les ressources humaines, puisque c'est un travail avant tout humain, faut le savoir. On l'a rappelé beaucoup ce soir. Donc oui, on peut commencer par là pour entrer dans ce domaine et cette fonction merveilleuse.
Merveilleuse, je sais pas, mais, mais riche en tout cas.
Oui, oui.
Non. C'est vraiment une fonction très, très riche et très complète. Si on veut travailler dans les ressources humaines, il y a plein de domaines dans les ressources humaines, en fait. Il y a les ressources humaines en entreprise, qu'on décrit un petit peu plus ce soir. Il y a les ressources humaines en cabinet qui seront aussi... On parlait de bilan de compétences, on parlait de VAE, on parlait... il y a vraiment plein de choses. Donc, je pense qu'en conseil, je dirais de se renseigner. Moi, je pense que je ne m'imaginais peut-être pas comme la fonction était large. Et selon, du coup, ce qu'on veut faire, bien orienter ses études. En effet, si on veut être généraliste, je pense qu'une base juridique, moi, m'aurait servi, par exemple. Je pense qu'il faut être à l'aise avec l'humain. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Il y a une partie administrative qu'il ne faut pas non plus négliger en RH. Tout le temps, je pense. Après, il y a des niveaux un peu plus stratégiques, mais... En tout cas, je pense que le domaine est large et donc ça vaut le coup de creuser qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que si on veut faire de la paye, bah pareil, hein, enfin, ça, faut pas faire psycho si on veut faire de la paye en entreprise, parce que clairement, il manquera des bagages, ou si on veut être juriste. Donc, il faut bien savoir ce qui existe. Et puis après, je pense que tout peut y mener. En fait, à part ce que je viens de citer, le juridique et la paye, tout le reste, ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend. Et donc, j'irais plutôt à l'instinct, plutôt à ce qui nous fait vibrer, plutôt à ce qu'on aime. Une fois qu'on fait ce qu'on aime, bah, tout y mène.
Moi, ce que je trouve véritablement intéressant dans tout ce que vous m'avez dit, c'est que d'un côté, toi, Victor, t'as entrepris cette formation à YouSchool, mais quand tu sors de YouSchool, t'es pas obligé de faire du RH. Tu peux faire totalement autre chose. Et toi-même, tu as adopté et tu possèdes des compétences qui te permettraient de faire un autre métier.
Fait.
De même que toi, Sidonie, tu l'as prouvé par ton profil, par ton cursus, où tu as fait pas forcément que du RH, tu as fait aussi d'autres choses. Donc, comment on arrive à cette multiplicité de facettes sans pour autant avoir fait une formation précise? Finalement, c'est quoi? C'est une formation plutôt généraliste qui te permet de déboucher vers plusieurs appétences professionnelles?
Oui, c'est ça, effectivement. Mais c'est ça qui est bien quand on vise des formations plutôt généralistes. On a à la fin un large panel qui s'offre à nous. Et voilà, après, vous allez là où vous savez que vous allez plutôt aimer, de par vos appétences, ou peut-être sur là où vous saurez faire beaucoup mieux qu'un autre, en termes de savoir-faire et savoir-être. Bon. Mais ce qui compte, c'est aussi d'écouter son intuition. Après, certes, la rationalité joue beaucoup, mais moi, j'ai beaucoup écouté mon intuition quand j'étais étudiant, et je crois qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver ma voie pour m'épanouir. Ça peut encore changer, hein, bien sûr, hein, tout n'est pas rose, on l'entend.
Parce qu'on a la liberté de changer de voie.
Effectivement, et il faut changer quand on le sent, et c'est important. Mais donc, ressentir au plus profond de soi-même ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire, ça, c'est important. Donc, écouter son intuition, ça compte aussi, ouais.
Je pense qu'une formation généraliste a beaucoup d'atouts, puisque bah, c'est généraliste et que ça ouvre à pas mal de portes. Maintenant, en fait, ce qui va un peu dessiner au début, hein, ce qui dessine les premières expériences, c'est l'expérience qu'on a engrangée sur les stages, sur l'alternance, sur le travail à côté qu'on a pu faire. Et c'est ça qui va un petit peu dessiner, c'est ça qui va aussi ancrer tes compétences. Tes compétences, oui, quand tu es généraliste, tu passes pas forcément au haut de la pile. Hein. Par contre, si tu as eu un bon stage, si tu as eu un travail pendant tes études, si tu as eu une expérience à l'étranger, c'est ça qui va un petit peu dessiner ton parcours aussi. Donc on revient sur le savoir-être. Bien sûr, les études, c'est hyper important, mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire quelque chose qui te passionne, parce que les compétences d'aujourd'hui n'existent. C'est pas ce qu'on va rechercher demain. J'aime beaucoup ce qu'il y a dans ta formation, Victor, quand tu parles d'innovation, de compétences transversales. Je pense que il faut voir tout ce qui va pouvoir être transposable sur un autre poste. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas pour faire ton poste de demain. Oui, ce sera ton poste de demain, mais ça va évoluer.
Le poste dans 10 ans, et le poste dans 15 ans, et le poste dans 2 mois, et puis dans 3 semaines.
Et le poste dans 10 ans, on le connaît pas, je pense, surtout.
Bien sûr, bien sûr. Il y a une fameuse formule qui me revient à l'esprit, mais je ne sais plus qui le disait, c'est qu'on ne naît pas compétent, mais on le devient. Donc ça veut aussi tout dire. Et donc il faut travailler, il faut aimer ce qu'on fait pour qu'on devienne compétent dans un domaine. Et donc ça, c'est par l'expérience que ça se forge. En principe.
Et par le travail. Ouais. Enfin, je pense que vraiment...
Oui, il faut charbonner quand même.
Ouais. ça tombe pas du ciel. Si, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous prendre la main. Enfin, il n'y a plus quelqu'un. C'était peut-être le cas avant. Et en effet,
auparavant.
Voilà. Dans des groupes comme Auchan, je veux bien le croire, il faut être acteur de son parcours professionnel. Faut soi-même développer les compétences qu'on a envie de développer. Et ça, c'est de l'apprentissage continu. C'est pas que tes études.
Et le monde de l'université nous le rappelle tous les jours. Si, si. Et le monde de l'entreprise encore plus.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce dernier épisode d'Altitude. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, j'ai appris plein de choses.
Eh bien, c'est partagé. Merci beaucoup, Louis.
Plaisir partagé également. Merci, Louis, à toi. C'était super. À la prochaine, peut-être, pour un nouveau numéro.
Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. C'était le 10e et dernier épisode de cette première saison. Merci pour toutes vos écoutes et vos commentaires. Cela m'a beaucoup aidé. Et j'ai été ravi de partager cette expérience avec vous. Si cette saison vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à me laisser un petit message sur Apple Podcast. Je remercie l'Université catholique de Lille pour son soutien et sa confiance. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce podcast. Je remercie également Julien et Megan de m'avoir formé à ce délicieux média qu'est la radio.
Un grand merci également à Radio Cassette pour leur accompagnement et leur savoir-faire tout au long du podcast. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.